4. Le plan narratif. Le troisième type de plan diffère radicalement des précédents. Il s'agit du plan narratif. Ici, nous allons bien chercher à articuler nos différentes parties entre elles au lieu de nous contenter de les accoler sans autre forme de procès. Toutefois, cette articulation ne suivra pas les règles de la pensée logique. Elle découlera plutôt des codes du récit. Au fond, dans un plan narratif, nous ne présentons pas une énumération ni ne déployons un raisonnement, nous racontons une histoire. Ou, pour employer un concept de communication contemporaine, nous faisons du storytelling. Pour cela, nous allons nous appuyer sur un outil élaboré par la recherche en littérature dans les années 60 et 70, le schéma narratif. En étudiant quantité de contes, mythes et légendes, les spécialistes ont réalisé qu'une grande partie des récits sont en réalité structurés selon les 5 mêmes étapes. D'abord, une situation initiale, perturbée par un élément déclencheur, lequel mène à une série de péripéties qui trouvent leur résolution dans un dénouement aboutissant à la situation finale de l'histoire. Dans un plan narratif, c'est exactement ce schéma que nous allons utiliser pour organiser notre propos. Nous commençons par exposer la tension qui se situe à la source de notre argumentation. Difficulté à résoudre, défi à relever, opportunité à saisir. Nous présentons ensuite les répercussions, positives ou négatives, provoquées par cette tension. Menace qu'elle fait planer, crainte qu'elle suscite, espoir qu'elle soulève. Enfin, nous avançons notre recommandation pour parer à ces menaces, lever ses craintes ou réaliser ses espoirs. Ce sera la proposition que nous portons. Tension, répercussion, recommandation, voilà les 3 étapes qui structurent notre narration et doivent être respectées avec la plus grande clarté. Par sa nature même, le plan narratif est particulièrement adapté aux interventions mettant en scène un récit personnel. Qu'il s'agisse de raconter notre propre histoire ou d'en rapporter une dont nous sommes dépositaires. Mais il peut aussi être utilisé beaucoup plus largement pour mettre en valeur l'histoire d'une institution, d'une entreprise, d'un projet ou d'une idée. Un très grand nombre d'interventions sont en réalité susceptibles d'être structurées à la manière d'un récit. Il s'agit d'un point notable. Fréquemment, en effet, nous voyons le storytelling ramené à un type de séquence en particulier, celle commençant par les mots « J'aimerais à présent vous raconter une histoire ». Le storytelling se limiterait au fait d'ouvrir une parenthèse dans notre propos au cours de laquelle nous déploierions une courte narration en guise d'illustration. Au fond, il ne serait rien de plus que la mise en avant d'anecdotes. Or, comme nous le voyons, l'utilisation rhétorique des procédés narratifs va beaucoup plus loin que cela. Il est possible d'utiliser l'art du récit non comme un simple outil au sein de notre argumentation, mais bien comme une manière de la structurer dans son intégralité. C'est l'intervention elle-même qui devient une histoire, dont le héros peut être une personne ou un groupe d'individus, mais aussi une entité beaucoup plus éthérée, une marque, une institution, une idée. La force du plan narratif vient précisément de là. Il confère à notre argumentation la puissance et le souffle du récit. Bien maîtrisé, il permettra de conserver l'attention des auditeurs et de mobiliser en eux d'intenses émotions. En cela, il est particulièrement adapté aux situations dans lesquelles nous cherchons à susciter une certaine ferveur. Meeting politique, conférence pour présenter un nouveau produit, discours de mariage. Mais il faut garder à l'esprit que le plan narratif comporte d'importantes limites. Tout d'abord, comme pour les plans logiques, notre proposition forte n'est énoncée qu'à la fin de l'intervention. Si nous perdons l'attention des auditeurs en cours de route, ils n'y auront même pas été exposés et nous aurons alors parlé pour rien. Par ailleurs, il n'est pas si simple de parvenir à structurer un récit, et encore moins un bon récit. Les trois étapes constitutives d'une structure narrative claire et dynamique ne s'imposeront pas toujours naturellement à nous. Ce type de plan n'est, ainsi, pas nécessairement adapté aux situations dans lesquelles nous disposons de peu de temps de préparation. Il suffit que notre récit soit mal construit pour que, au lieu d'être épique et mobilisateur, il devienne obscur et fastidieux. Suite de l'étude de cas, option numéro 6. Si mon histoire personnelle le justifie, je peux éventuellement me risquer sur le terrain du plan narratif. Je commence alors par parler de mon enfance. Je raconte à quel point j'étais un garçon timide, qui n'osait pas aller vers les autres, et encore moins prendre la parole en classe. Tension. J'explique combien cela m'a rendu malheureux, et comment j'ai pris la décision d'observer mes camarades afin d'apprendre de moi-même ce qui était apparemment si naturel pour les autres. Répercussions. Je conclus en disant que non seulement je suis ainsi devenu un véritable orateur, mais que de surcroît, cela m'a amené à inventer une méthode permettant même aux plus timides d'acquérir la maîtrise de la parole. C'est cette méthode que j'ai désormais à cœur de transmettre. Recommandation. Suite de l'étude de cas, option numéro 7. Le plan narratif peut également se révéler approprié pour raconter non pas ma propre histoire, mais celle de l'éloquence elle-même. Je commence par expliquer que, longtemps, elle a été surtout réservée à une petite catégorie de privilégiés, les personnes ayant eu la chance d'étudier en fac de droit ou dans une grande école. Tension. Or, que remarque-t-on ? Que ce sont principalement ces individus que l'on retrouve ensuite dans de hautes fonctions, qu'il s'agisse d'un mandat politique, d'un poste de direction en entreprise ou d'une place dans les médias. Répercussions. Il est donc urgent de libérer l'éloquence, de la démocratiser, pour que tous les citoyens bénéficient enfin d'une chance égale de faire porter leur voix. C'est ce que je m'emploie à faire avec mes formations. Recommandation. 5. L'absence de plan, la concaténation. Terminons ce tour d'horizon en évoquant une option souvent préjudiciable, mais parfois redoutable, l'absence de plan. L'orateur ou l'oratrice se contente de laisser s'écouler le fil de sa pensée. Les idées et les arguments ne s'enchaînent selon aucun ordre logique, narratif ou énumératif. Le premier développement en appelle un deuxième qui mène à un troisième et ainsi de suite jusqu'à ce que le flot se tarisse. La conclusion n'en est souvent pas une, elle se contente d'être la dernière idée à avoir été prononcée. Dans les termes de la stylistique, on parle alors de plan par concaténation. La concaténation est une figure de style consistant à mettre bout à bout des phrases ou des idées en faisant en sorte que le début de chaque segment soit identique à la fin du segment précédent. À titre d'exemple, on peut citer la tirade de Sganarelle dans le Don Juan de Molière. « Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle se brise. » Et comme dit fort bien cet auteur que je ne connais pas, l'homme est en ce monde ainsi que l'oiseau sur la branche. La branche est attachée à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour. À la cour sont les courtisans. Les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui nous donne la vie. La vie finit par la mort. La mort nous fait penser au ciel. Le ciel est au-dessus de la terre. La terre n'est point la mer. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Les vaisseaux ont besoin d'un bon bon pilote. Un bon pilote a de la prudence. La prudence n'est point dans les jeunes gens. Les jeunes gens doivent obéissance aux vieux. Les vieux aiment les richesses font les riches. Les riches ne sont pas pauvres, les pauvres ont de la nécessité. Nécessité n'a point de loi. Qui n'a point de loi vit en bête brute et, par conséquent, vous serez damné à tous les diables. Chez Molière, la concaténation est poussée à l'extrême. Les idées s'enchaînent à un rythme effréné. Elles n'ont strictement aucun lien entre elles, sinon la co-occurrence des mots pivots. Et, malgré l'absence de toute cohérence, elles mènent à un jugement catégorique, « vous serez damné par tous les diables », présenté comme la conclusion d'un raisonnement logique, par conséquent. L'ensemble de la séquence, par son exagération caricaturale et son absurdité totale, produit un effet comique. Elle n'en attire pas moins notre attention sur les dérives possibles de la concaténation. Nous y reviendrons. Comme cet exemple nous le suggère, la concaténation est davantage le propre d'une expression artistique que d'une pensée rhétorique. On retrouve par exemple cette structure dans de nombreux textes de rap où les auteurs évoquent souvent plusieurs thèmes au sein d'un même morceau, voire d'un même couplet. Elle est également utilisée au sein du stand-up comedy. Dans cette variation contemporaine du spectacle comique, les comédiens, généralement seuls sur scène, ont tendance à passer d'un sujet à l'autre par simple association d'esprit. Il n'est d'ailleurs pas rare que ces spectacles se terminent sur un sobre « Ce sera tout pour moi ce soir, merci de m'avoir écouté ». C'est bien le signe d'une structure concaténée où l'auteur ne cherche pas à progresser vers une conclusion logique, mais se contente d'arrêter de parler après le dernier de ses traits d'humour. Et bien sûr, on retrouve aussi ce procédé en poésie où les auteurs peuvent se laisser aller à déverser leurs mots au gré des images et des émotions qui les traversent. Dans une expression artistique, où l'enjeu est avant tout la transmission d'émotions, la concaténation présente d'évidents attraits. Pour l'auteur, elle permet de déployer sa créativité librement, en étant bridée par rien d'autre que son imagination. Pour le spectateur, elle apporte le délassement de se laisser porter par une linéarité, sans devoir fournir l'effort d'y chercher une cohérence. En revanche, dans une construction rhétorique, où l'enjeu est la recherche de la conviction, la concaténation constitue un péril majeur. Les différents éléments n'y étant ni ordonnés ni structurés, ils peineront à constituer une véritable ligne argumentative. À la fin de l'intervention, les auditeurs auront peut-être entendu quelques développements susceptibles de les intéresser, mais probablement pas un raisonnement propre à les convaincre. Pour cette raison, nous devrions résister à la tentation de nous exprimer sans avoir en tête une structure argumentative, fût-elle sommaire. L'envie peut être grande parfois d'attraper le micro à la volée et de parler aux débeautés en nous disant que, allez, nous avons notre point de départ, une vague idée de ce que nous voulons développer, nous sommes expérimentés, tout devrait bien se passer. Il arrive qu'une telle audace soit couronnée de succès, mais elle peut aussi se solder par un désastre. Cela étant dit, les caractéristiques très particulières d'un plan par concaténation peuvent également être exploitées au sein d'un authentique projet rhétorique. De manière paradoxale, il s'agira alors de nous appuyer sur l'absence de rigueur pour faire de cette structure un puissant outil de conviction et, disons-le, de manipulation. Souvenons-nous que, du point de vue de l'auditoire, une intervention concaténée paraît en tout point délassante. Le rythme des associations d'esprit épouse le fil naturel de la pensée. Les auditeurs se laissent dériver dans le courant de nos arguments, en prenant de moins en moins la peine d'en interroger la pertinence et la cohérence. Progressivement, leurs facultés critiques s'assouplissent. Quand, enfin, nous leur présentons notre conclusion, celle-ci semble couler de source. Les auditeurs ne savent pas vraiment comment nous y sommes parvenus. Il leur est impossible de reconstruire notre raisonnement. Et pourtant, cette proposition finale leur apparaît comme convaincante, quand bien même ils ne savent pas pourquoi. Cette utilisation rhétorique de la concaténation, c'est exactement ce à quoi s'employait, de manière caricaturale et bouffonne, Scannarelle dans Don Juan. Qu'on ne s'y trompe pas, une telle structure argumentative n'a plus rien à voir avec une intervention improvisée, où nous nous laisserions dériver au gré des fluctuations de notre pensée. Elle est, au contraire, particulièrement complexe à mettre en œuvre et relève d'une véritable construction. L'objectif sera d'éparpiller nos arguments clés à des endroits très différents de la concaténation. Ce faisant, les auditeurs ne savent jamais si nous sommes en train de leur présenter un élément important de notre raisonnement ou une simple digression. Perdus, ils acceptent de se laisser porter. C'est seulement quand arrive notre conclusion que les pièces du puzzle s'assemblent, en partie inconsciemment. La proposition semble aller de soi, sans qu'il soit possible de savoir pourquoi. Pour les oratrices et les orateurs, on voit bien quel peut être l'intérêt d'une telle construction. Bien que peu rigoureuse, elle est efficace. En voilant les arguments derrière le flot d'une pensée concaténée, elle permet d'asséner avec force une proposition que l'on sait pourtant fragile. En tant qu'auditrice ou auditeur, c'est donc une construction à laquelle nous devrions être particulièrement attentifs. On la retrouve, par exemple, dans certains films documentaires à grand spectacle. Dans ce type de production, un grand nombre d'intervenants se succèdent sans que nous puissions nous souvenir qui a dit quoi. Les séquences sérieuses et émouvantes s'enchaînent sans que nous ayons le temps de reprendre notre souffle. Les images d'archives et les mises en scène s'alternent sans que nous pensions à bien les distinguer. Une voix off intervient ponctuellement pour guider notre interprétation sans que nous songions à nous en méfier. À la fin du film, ce n'est pas un raisonnement clair qui subsiste dans notre esprit, plutôt une idée diffuse à laquelle nous aurons été pleinement exposés sans pouvoir convenablement nous en défendre. Méfions-nous donc lorsque nous repérons une structure argumentative par concaténation. Elle est parfois moins signe de paresse que d'adresse.